Ton universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le monde aujourd'hui, au micro, Morgane Diriek et Bagassi Koura.
Et ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique.
Au sommaire, en ce vendredi 14 novembre, la Coupe d'Afrique des Nations de football aura finalement lieu en Guinée équatoriale.
Et Boko Haram s'est emparé de Chibok, dans le nord-est du Nigeria.
Boko Haram s'est emparé, comme vous venez de le dire, de Chibok. Et au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida affirme que la charte de la transition sera signée demain.
Début aujourd'hui à N'Djamena, au Tchad, du procès de 29 complices présumés de l'ancien président Hissène Habré.
Au Mali, les autorités tentent d'empêcher la propagation du virus Ebola.
Nous avons besoin de prendre des mesures assez énergiques pour que l'ensemble de la nation puisse se mobiliser.
Sans oublier les sports et la musique en fin d'émission, mais avant le journal.
Oui, commençons par cette nouvelle du jour. La Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu aux dates prévues. La Confédération africaine de football a annoncé aujourd'hui que la grande fête du football continental aurait finalement lieu en Guinée équatoriale comme en 2012, Nicolas Pineau.
Oui, la décision est tombée depuis Malabo où Issa Hayatou, le président de la CAF, a rencontré le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. La Coupe d'Afrique des Nations aura donc lieu en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février 2015. On se souvient, Bagassi, que ce pays avait déjà organisé la CAN 2012 avec le Gabon. C'est un grand ouf de soulagement pour tous les fans de ballon rond en Afrique. Après le désistement du Maroc pour cause d'épidémie d'Ebola sur le continent, beaucoup craignaient que la CAF n'annonce une annulation pure et simple du tournoi. Il n'en sera rien. À noter que l'équipe équato-guinéenne est automatiquement qualifiée pour cette CAN en tant que pays organisateur. Et puis le Maroc, lui, est disqualifié, il est sous le coup de possibles sanctions. On se souvient par exemple qu'en 1996, le Nigeria avait refusé d'aller à la CAN en Afrique du Sud et avait alors été suspendu 4 ans de toute compétition continentale.
Nouvelles avancées de Boko Haram dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. L'organisation islamiste s'est emparée de Chibok, ville où elle avait enlevé plus de 200 lycéennes en avril dernier. L'attaque se serait produite hier et d'après un pasteur, il y aurait eu des échanges de tirs entre les islamistes et les soldats, soutenus par des milices locales. Tous les pylônes de télécommunication auraient été détruits et la population se serait enfuie dans la brousse. La prise de Chibok semble avoir eu lieu peu après la prise de Hong et Gombi, deux villes de l'état voisin d'Adamawa, hier par Boko Haram.
Au Burkina Faso, la charte de la transition qui a été adoptée hier à l'unanimité a été remise cet après-midi au lieutenant-colonel Isaac Zida qui tient les rênes du pays depuis la chute de Blaise Compaoré. Les précisions de Michel Joseph.
Le lieutenant-colonel Isaac Zida estime que c'est plus qu'un honneur d'avoir abouti à l'adoption de cette charte. Il a promis qu'elle sera signée demain et si tout va bien, les personnes qui composeront la transition pourraient être connues dans le courant de la semaine prochaine. Mais Zida doit d'abord lever la suspension de la Constitution. Après cela, le président de la transition d'une durée d'un an maximum doit être choisi par un collège des sages. Selon la charte, il doit être un civil n'ayant aucun bord politique. Le Premier ministre nommé par le président de transition pourra, lui, être une personnalité civile ou militaire et celui-ci formera un gouvernement de 25 membres. L'autre organe de la transition sera le Conseil national de transition, le CNT. Celui-ci jouera le rôle de parlement provisoire et sera composé de 90 membres. Il aura à sa tête une personnalité civile également.
Retour au calme aujourd'hui à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Après une journée de paralysie hier, les ex-combattants Seleka ont suspendu leur mouvement de mécontentement en attendant l'aboutissement des négociations ouvertes avec le gouvernement. Le point avec Eddy Isango.
Les ex-combattants rebelles ont décidé de s'asseoir provisoirement à l'Ergogne suite au premier pas fait jeudi soir par les autorités intérimaires. Le gouvernement a déboursé 4,5 millions de francs CFA en faveur des protestataires et promis de discuter d'autres points de leurs revendications dans 72 heures. Pour le commandant Modeste Lumbalbay, chef des opérations au camp Béal, si rien n'est fait dans les 72 heures, les ex-rebelles reviendront à la charge.
On a manifesté hier, il nous a donné une petite somme, mais ce qu'il a donné hier, ça ne suffit pas et ça ne peut pas arranger notre problème. Mais il nous a donné un délai de 72 heures pour arranger. On a accordé de regagner nos bases pour attendre le délai de 72 heures. Mais dès que le délai ça expire et il n'a pas réalisé, c'est dès maintenant qu'on va révolter.
Aujourd'hui, le calme est revenu à Bangui et la circulation a repris sur les acteurs barricadés. La MINUSCA, de son côté, a exprimé sa vive préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la capitale suite à la violente manifestation des ex-Séléka. Elle a appelé tous les acteurs de la vie nationale, particulièrement les groupes politico-militaires, à contribuer au rétablissement de l'ordre et de la sécurité.
Et notons par ailleurs que la Centrafrique a porté plainte cette semaine à Paris contre l'ex-président François Bozizé pour obtenir une enquête sur les biens qui auraient été acquis par lui et son entourage. C'est ce qu'annonce l'agence France Presse.
Sachez aussi que la Mauritanie va envoyer une compagnie aéroportée pour participer à la force de l'ONU en Centrafrique. C'est ce que rapporte l'agence mauritanienne d'information. Cette force spécialement équipée et formée pour cette mission comprend notamment une compagnie aéroportée de fantassins et un escadron de la gendarmerie qui assurera la police militaire en RCA, a précisé l'agence officielle sans indiquer la date de son départ. Un effectif estimé à une centaine d'hommes et la force a été passé en revue mercredi par le ministre de la Défense.
Début aujourd'hui à N'Djamena au Tchad du procès de 29 complices présumés de l'ancien président Hissène Habré, lui-même inculpé de crimes contre l'humanité par les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Ce procès était très attendu par les Tchadiens. Les prévenus sont en majorité d'anciens agents de la Direction de la Documentation et de la Sécurité, la DDS, la police politique de Hissène Habré, qui a dirigé le Tchad de 1982 à 1990. Visés par une plainte déposée en l'an 2000 par des victimes de la répression sous Habré, ils sont accusés d'assassinat, de torture et de détention arbitraire, entre autres. Parmi eux, Saleh Younous, un ancien directeur de la DDS, et Mahamat Djibrine, présenté par une commission tchadienne d'enquête comme l'un des tortionnaires les plus redoutés de cette police. Le procès a débuté en l'absence des avocats, le barreau tchadien observant une grève pour réclamer des arriérés d'honoraires que doit l'État tchadien. Les victimes et leurs avocats disent fonder beaucoup d'espoir sur ce procès, mais redoutent une justice expéditive qui serait, à leur avis, une insulte aux victimes.
Au Zimbabwe, le parti du président Robert Mugabe a suspendu deux de ses ténors et exclu un troisième, une purge qui intervient à deux semaines du congrès de la ZANU-PF. Idriss Fall nous en dit plus.
La ZANU-PF au pouvoir depuis 1980 a suspendu son porte-parole Rogare Gumbo ainsi que le député Enoch Poru Singazi pour une durée de 5 ans. Ils sont considérés comme hostiles au rôle que joue depuis peu la première dame Grace Mugabe. Le parti de Mugabe a aussi annoncé l'exclusion de Jubalani Sibanda, chef de file des vétérans de la lutte d'indépendance et qui a récemment refusé de rejoindre Mme Mugabe dans sa tournée nationale pour préparer le congrès du parti. La vice-présidente Joyce Mujuru, veuve d'une ancienne figure du régime tuée dans un mystérieux incendie en 2011, semblait avoir le vent en poupe, mais elle est de plus en plus poussée sous la touche par le camp de Mme Mugabe. Grace Mugabe, mariée au président depuis 1996, a demandé ouvertement sa démission, l'accusant, entre autres, d'arnaque dans une affaire d'importation de poulet brésilien. C'est une lutte de pouvoir à couteau tiré avant le congrès de la ZANU-PF à partir du 2 décembre. Robert Mugabe, plus de 90 ans, doit être confirmé à la tête du parti, mais c'est comme une guerre de succession qui s'est ouverte au Zimbabwe.
Voilà, et puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika est hospitalisé dans une clinique de Grenoble en France. C'est ce qu'on dit des sources proches du dossier à l'agence France-Presse. Le motif de son hospitalisation n'a pas été précisé. Âgé de 77 ans, il est affaibli depuis un AVC en 2013.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'organisation État islamique a exécuté un de ses hauts responsables accusés de détournement de fonds et de vol. Information rapportée par l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce haut dirigeant du groupe de nationalité syrienne est accusé de prendre de l'argent aux musulmans et de détourner des fonds de l'État islamique. Par ailleurs, l'État islamique, accusé vendredi par l'ONU de se livrer en Syrie à des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, contrôle la majeure partie de Deir ez-Zor, province pétrolière de l'Est syrien.
En Ukraine, une fillette de 5 ans est morte à la suite d'un tir de mortier dans la région séparatiste pro-russe de Lugansk, ont annoncé les autorités de Kiev, accusant les rebelles d'être à l'origine des tirs. 4 soldats ont aussi perdu la vie et 5 autres ont été blessés, a par ailleurs indiqué l'état-major de l'opération ukrainienne dans l'Est.
Réunion du G20 à Brisbane, en Australie, la rencontre de 2 jours de 20 puissances économiques de la planète devrait se concentrer sur les finances mondiales, le changement climatique et l'Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine est arrivé vendredi dans la ville australienne.
Et puis ce constat accablant, hein, le secrétaire américain à la défense, Chuck Hagel, affirme que l'arsenal nucléaire américain souffre d'une mauvaise gestion, d'un manque de personnel et d'un moral bas de ce personnel. Toute chose, selon lui, qui pourrait nuire à la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ses armes. Hagel a annoncé un examen de l'arsenal nucléaire américain.
Et toujours aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté ce vendredi pour autoriser la construction de l'oléoduc controversé Keystone XL entre le Canada et les États-Unis. Mais l'incertitude demeure sur le sort de la mesure au Sénat et à la Maison-Blanche. Voilà pour le journal. Au micro, Bagassi Koura et Morgane Diriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique et on passe à la partie magazine de notre émission. Les tractations continuent au Burkina Faso pour le choix du président de transition qui sera désigné par un collège, probablement lundi. Toutes les entités ont proposé leur candidat, sauf l'armée, qui doit également proposer 3 noms de civils. Nathalie Barge a joint Siaka Koulibaly, membre de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte de transition.
On a pêle-mêle des personnalités comme Aliou Ouedraogo, l'ancien activiste président du mouvement burkinabé des droits de l'homme. On a aussi Ousmane Ouedraogo, l'ancien vice-gouverneur de la BCAO, qui avait donné un profil de rigueur de gestion financière quand il était passé au gouvernement et qui avait dû quitter le gouvernement au bout de 9 mois parce qu'il ne supportait pas les pratiques financières peu orthodoxes du régime en place. Et aussi, il y a des femmes qui sont pressenties, comme l'ancienne présidente du Conseil d'État, Aridjata Diakouré et d'autres personnalités de ce genre. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment une figure qui tranche au-dessus du lot. La société civile a plutôt présenté l'évêque Bouodoulasso, Monseigneur Paul Ouedraogo, mais on sait que l'Église s'était résistée parce que ce n'était pas dans leur pratique d'assumer ce type de rôle-là. Donc la société civile à l'époque avait 3 noms, à savoir l'évêque Paul Ouedraogo, petit shérif qui est un journaliste contestataire et puis un autre journaliste également d'investigation, Newton Ahmed Bari.
Le futur président de la transition doit être un civil, donc, mais l'armée a la possibilité de présenter aussi des candidats, n'est-ce pas?
Jusque là, on ne sait pas qui l'armée va proposer. Ce qu'on sait, c'est que quand les chefs d'État de la CEDEAO avaient demandé que chaque composante propose 3 noms, l'armée avait répondu qu'elle ne pourrait proposer qu'un seul nom. Mais de qui il s'agit, on n'avait pas d'informations. Pour l'opposition, nous savons qu'ils ont fait la proposition de 2 noms, à savoir Ablasio Ouedraogo et Maître Sankara Benouende, qui est le leader de l'organisation sankariste qui se bat depuis longtemps contre le régime Compaoré et qui a assumé la position de chef de file de l'opposition plusieurs fois. Selon la charte, il est prévu que des candidats déposent leur candidature et qu'il y ait une présélection et qu'on retienne 3 au final. Et 3, ce sont tous de ces 3 que le collège de désignation va travailler pour avoir le consensus et désigner le président de transition. Au pire des cas, ils vont procéder par un vote.
La question que se pose beaucoup la presse et les observateurs aujourd'hui, quel poste va occuper le colonel Zida?
J'ai entendu parler qu'il aurait été voulu lui laisser le ministère de la Défense, mais c'est une hypothèse qu'il faut rejeter dans la mesure où il va être très difficile que dès qu'il va jouir du statut d'ancien chef d'État, il lui soit loisible d'être dans un gouvernement aux ordres donc d'un autre président de transition. on ne va pas peut-être retrouver le colonel Zida dans les organes futurs qui viennent pour la transition, mais il va falloir lui aménager justement cette sortie, peut-être en lui conférant le grade de général, une mise à la retraite aussi, ce qui lui permettra d'envisager d'autres activités.
Voilà, c'était le politologue Siaka Koulibaly, membre de la commission de rédaction de l'avant-projet de la charte de transition.
Camille Grodidi avec vous dans la prochaine édition de Carrefour Science et Santé, la journée mondiale contre le diabète. Voilà, l'Afrique subsaharienne est particulièrement menacée. On entendra le docteur Belma Malanda de la Fédération internationale du diabète. Et alors que l'Agence spatiale européenne pose une sonde sur une comète, une équipe internationale d'astronomes a déchiffré les mystères du système stellaire triple de Gégétoa. Tous les détails ce week-end dans Carrefour Science et Santé. Avec moi, Camille Grodidier.
Voilà, et direction le Mali à présent, où les autorités tentent d'empêcher la propagation du virus Ebola. Les autorités là-bas vont ouvrir une enquête suite à l'enregistrement d'un second cas hospitalisé à la polyclinique Pasteur à Bamako. À ce jour, 186 personnes sont en quarantaine dans la capitale malienne, dont 20 militaires de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. De nouvelles mesures ont été annoncées lors d'une réunion interministérielle à Bamako. Kassim Traoré nous en dit plus.
Les Maliens commencent à comprendre que la menace Ebola est réelle, avec l'enregistrement de 2 morts en l'espace d'un mois et les symptômes de la maladie visibles chez les médecins traitants du Guinéen décédé, Moussa Mara, Premier ministre.
La situation est celle que vous connaissez tous. Nous avons besoin de prendre des mesures assez énergiques pour que l'ensemble de la nation puisse se mobiliser de manière efficace pour que nous puissions gérer cette crise de manière satisfaisante pour les populations.
Côté santé, il y aura le renforcement des dispositifs sanitaires. Professeur Sambasso, coordinateur du Centre des opérations d'urgence.
Le site d'isolement au niveau du CENAM, très très bien mis en œuvre et absolument bien fonctionnel. C'est renforcer les structures existantes à Kouré-Malé et essayer de renforcer également les mêmes genres de structures, donc d'isolement, de prise en charge dans toutes les régions du Mali. Beaucoup de communication dans tous les lieux publics, toutes les structures publiques et privées, et donc ces communications même électroniques de façon sur Internet, et donc revoir les plaquettes, les mettre à jour et puis donc distribuer ces plaquettes partout et renforcer les mesures d'hygiène au niveau des morgues dans le pays.
L'État va former les agents de santé afin qu'ils puissent faire leur travail convenablement, mais pour mieux diagnostiquer les patients et autres malades.
Que les équipes de santé restent vigilantes pour que le réflexe Ebola puisse exister partout où on est et que chaque fois qu'ils reçoivent des patients avec des signes de suspicion Ebola, qu'ils pensent à Ebola, mais qu'ils ne pensent pas qu'à Ebola seul pour fuir aussi les responsabilités. Faire en sorte que vraiment la rumeur ne domine pas sur la vérité.
De tout doit se faire dans une sérénité au niveau des structures sanitaires, la population, mais en leur donnant la bonne information. Maman Babi, ministre porte-parole du gouvernement malien.
C'est aussi d'appeler vraiment la population à la vigilance, à la mobilisation. Tout le monde doit développer des réflexes en ce qui concerne les questions d'hygiène, en ce qui concerne les informations au personnel sanitaire pour que vraiment tout ce qui peut contribuer à accélérer la propagation, qu'on puisse stopper ça.
L'État et ses partenaires prendront des mesures nécessaires pour circonscrire la maladie à virus Ebola. Pour ce qui est de la clinique Pasteur, une enquête sera ouverte pour situer les responsabilités. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ici aux États-Unis, les choses risquent de se gâter encore plus entre le président Barack Obama et les républicains qui contrôleront les deux chambres du Congrès en janvier 2015. En effet, malgré les mises en garde de ces derniers, M. Obama est décidé à prendre un décret pour protéger quelques 5 millions de sans-papiers menacés d'expulsion des États-Unis. Lionel Gaïma.
Selon des sources officielles, le président pourrait annoncer la nouvelle dès la semaine prochaine ou attendre jusqu'au mois prochain, c'est-à-dire après l'adoption d'un budget par le Congrès. Quoi qu'il en soit, le président de la Chambre des représentants, le républicain John Boehner, a averti que tous les moyens sans exception seront utilisés pour s'opposer à d'éventuelles mesures unilatérales sur l'immigration. De son côté, le futur leader de la majorité au Sénat, le républicain Mitch McConnell, a dit que ce serait comme agiter une cape rouge devant un taureau. Monsieur Obama soutient que, plutôt que de perdre du temps à bloquer ses actions légales, les républicains devraient en consacrer un peu à l'adoption d'une loi réformant le système. Il fait allusion au projet déjà approuvé par le Sénat et bloqué à la Chambre basse. Mais selon le Washington Post, le président a délibérément choisi la confrontation avec les républicains pour accroître les chances de ses candidats de son parti lors de la présidentielle et des législatives de 2016 en s'attaquant aux questions prioritaires pour la coalition démocrate. Mais que signifie pour les Africains en situation régulière le décret promis par M. Obama ? Idrissa Seydou Dia a posé la question à Bakary Tandja, membre du conseil d'administration de la New York Immigration Coalition.
Un tel décret aurait une signification assez importante pour la communauté parce que bon, les Africains comme les autres communautés, nous avons un pourcentage considérable de personnes qui sont sans documents. Donc toute mesure qui permettrait aux personnes qui sont dans cette situation d'avoir un statut légal, de pouvoir obtenir un permis de travail, Social Security, bon, pourrait leur permettre de normaliser leur situation, d'avoir accès à des emplois décents, où ceux qui désirent aller à l'école pourront, par exemple, bénéficier de certains avantages sur le plan financier.
Qu'est-ce que ça signifie aussi pour les enfants de ceux qui sont venus sans papier ici, illégalement, comme on dit?
Les enfants qui sont venus ici sans papier, bon, le président a déjà signé un décret les concernant, qu'on appelle DACA, en anglais, Deferred Action for Childhood Arrival. Donc, techniquement, ces personnes-là n'avaient aucune intention de devenir ici. Ils sont venus avec leurs parents. Le fait de les punir à cause d'un acte posé par leurs parents, sur le plan de la justice même, ce n'est pas du tout acceptable. Bon, et moralement, bon, c'est condamnable. Enfin, ces enfants sont actuellement dans une situation normalisée. Et certainement, le président pourrait prendre des mesures supplémentaires pour renforcer davantage ce statut.
Bakary Tandja, membre du conseil d'administration de la New York Immigration Coalition.
Voilà, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Hein, c'est l'heure des sports. Nicolas Pino, bonsoir.
Bonsoir, Bagassi.
Alors, la CAN 2015 aura donc bel et bien lieu. Hein, la Confédération africaine de football a annoncé aujourd'hui que la grande fête du football continental aurait finalement lieu en Guinée équatoriale, Nicolas.
Comme en 2012, la décision est tombée depuis Malabo, où Issa Hayatou, le président de la CAF, a rencontré le président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema. La Coupe d'Afrique des Nations aura donc lieu le 17 janvier jusqu'au 8 février. Une décision qui ne fait pas vraiment plaisir hein, aux associations qui comparent la Guinée équatoriale à la Corée du Nord. Bref, cette CAN 2012 qui avait été organisée avec le Gabon risque évidemment de se répéter à Malabo et à Bata. C'est un grand ouf de soulagement pour les fans de ballon rond en Afrique. Après le désistement du Maroc, pour cause d'épidémie d'Ebola sur le continent et notamment en Afrique de l'Ouest, beaucoup craignaient que la CAF n'annonce une annulation pure et simple du tournoi. Il n'en sera rien, noter que l'équipe équato-guinéenne est automatiquement qualifiée pour cette CAN en tant que pays organisateur.
Et puis le Maroc est disqualifié, lui, sous le coup de possibles sanctions.
Et oui, on se souvient qu'en 1996, le Nigeria avait refusé d'aller à la CAN en Afrique du Sud et avait été suspendu 4 ans de toute compétition continentale.
Et Nicolas, sur le terrain, la cinquième journée des éliminatoires de cette CAN a bien débuté avec ce carton à Abidjan.
Et oui, face à la Sierra Leone, victoire 5-1 des Ivoiriens au stade Oufouette Boigny. Les hommes d'Hervé Renard ont attendu 45 minutes pour faire la différence devant leur public. Kolo Touré avait pourtant ouvert le score dès la 7e minute de jeu, mais les Leone Stars recollent à la marque grâce à Bangoura à la 24e minute. Les éléphants rentrent au vestiaire à égalité, un but partout avec les visiteurs. On ne sait pas ce qui s'est dit dans les vestiaires à la mi-temps, mais le sélectionneur des Ivoiriens, Hervé Renard, a dû faire entendre sa voix. La deuxième mi-temps est à sens unique et les éléphants vont inscrire 4 buts pour le plus grand plaisir de leurs supporters. Salomo Kalou, auteur d'un doublé, Max Gradel et Gervinho qui permettent à la Côte d'Ivoire de l'emporter et d'éviter la crise avant la deuxième journée. Les éléphants sont deuxièmes du groupe D avec 9 points. La RDC est à 3 longueurs avant son match demain contre les Lions indomptables au stade Amadou Ahidjo. Les Congolais doivent absolument ramener un point de ce déplacement pour préserver le suspense. Ils pourront compter sur leur star de West Bromwich Albion, Youssouf Moulumbou.
Le groupe il se porte bien. Tout le monde est arrivé à l'heure et les entraînements se portent super bien. Après, au niveau de l'état d'esprit du groupe, bah, c'est sûr qu'après la victoire contre la Côte d'Ivoire, je dirais pas qu'on est dans l'euphorie, mais on sait que voilà, on peut gagner n'importe qui maintenant. À nous de bien nous préparer, à nous d'être bien concentrés pour pouvoir gagner face au Cameroun. Nous et tout le groupe, on est conscient que c'est un match super important. Pour les joueurs, pour le peuple, pour le Congo. Donc on va essayer de faire le maximum pour ramener au moins un point ou sinon gagner ici à Yaoundé.
Youssouf Moulumbo au micro du Top Congo, notre partenaire à Kinshasa. Et puis Nicolas, il y a aussi un autre résultat ce soir.
Hein. Oui, la Tunisie est allée faire match nul 0-0 au Botswana. Elle se qualifie pour cette CAN. Elle occupe toujours la première place du groupe G avant le match de demain, Égypte-Sénégal.
Bien, après cette large victoire des éléphants, on attend maintenant le match éléphant-Cameroun. Le reste des autres rencontres, Nicolas ?
Et oui, demain dans le groupe A, Afrique du Sud-Soudan et surtout Congo-Nigeria, les Diables Rouges peuvent définitivement assurer la qualification. Dans le groupe B, l'Algérie face à l'Éthiopie et surtout le Mali en déplacement au Malawi, les Aigles qui pourraient se qualifier également pour la CAN en cas de victoire. Dans le groupe C, l'Angola peut recoller au peloton de tête en battant le Gabon à Luanda. Le Burkina Faso devra lui se méfier du déplacement piège à Maseru contre le Lesotho. Sur place, Salif Kabore.
Le Lesotho, seul pays au monde à être situé très haut en altitude sur l'ensemble de son territoire, environ 3482 mètres, accueille ce samedi le Burkina Faso au stade national de Maseru, la capitale. Avec une population estimée à plus de 120 000 habitants, la ville arbore depuis plusieurs jours maintenant les couleurs nationales du pays, annonçant ainsi l'importance capitale de la rencontre, et les supporters viennent de partout à travers le pays à cheval pour être témoins de ce rendez-vous. Les crocodiles sont généralement difficiles à manœuvrer à domicile et la quasi-totalité de ces matchs dans le cadre de ces éliminatoires se sont soldés par de nuls au stade national. Les étalons de Burkina Faso, deuxième du groupe C, eux espèrent obtenir le sésame précieux ici à Maseru. Maseru, Salif Kabore, la voix de l'Amérique.
Il faut ajouter que le Gabon est dans le même groupe que le Burkina Faso et que le capitaine du Gabon a été bloqué par Dortmund pour cause d'Ebola, Nicolas.
Ah oui, Pierre-Emerick Aubameyang, évidemment, les Allemands qui s'inquiètent. Dans le groupe E, le Togo peut définitivement éliminer le Sili National de Guinée s'il l'emporte à Lomé, le Ghana face à l'Ouganda. Et dans le groupe F, à Praia, le Cap-Vert déjà qualifié affronte le MENA du Niger et son nouvel entraîneur. Et puis le Mozambique qui affrontera la Zambie, dont vous adorez prononcer le nom des joueurs, hein, Bagassi.
Voilà, et rendez-vous lundi dans Sporama pour tous les résultats.
La messe élite.
C'est l'heure de la page musicale avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane. Un des artistes top de la soca, c'est bel et bien Benji. Il est très connu et respecté sur la scène internationale. Sa contribution, dont la musique, est très importante et très appréciée. Il a influencé un grand nombre de jeunes artistes musiciens. Ce soir, on l'écoute dans une très belle chanson, Last Jam. L'artiste Benji de Trinidad et Tobago dans la communauté d'Arima, une communauté qui a produit plusieurs icônes du calypso, par exemple Lord Kitchener et Rolly Betoudier, qui ont tous deux joué un grand rôle dans le maintien de la musique traditionnelle Aruma. Benji a fait ses preuves comme l'un des paroliers freestyle le plus compétent. Sa carrière, Morgane, a été jusqu'à présent une carrière phénoménale.
Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgane.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
And when the timing reached, they opened the door. We don't.
Oh Lord. These children, this is the last song before I leave tonight. Please make your way out of the party, please.
They say this is the last time, but I don't wanna go nowhere. This is the last time, but I don't wanna go nowhere. This is the last time.
Ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Joselle Morissin à la mise en onde.
Et Bagassi Koura au micro.
Et Morgane Guiriec aussi. Passez un bon week-end.
À lundi.
Telling people it's time for